tous. Alors oui, c'était vraiment quelque chose de très beau à voir, ces enfants. Très parlant, effectivement. Je suis Pascale Meyer et donc je viens de l'église méthodiste de Strasbourg, où je suis membre. Et je vous adresse déjà maintenant les salutations de la part de cette église. Alors juste un petit clin d'œil à ce que c'est qu'aujourd'hui le 14 février. C'est la Saint-Valentin. On fête aussi un petit peu l'amour des uns, enfin dans un couple, pas plusieurs, de deux personnes, l'une avec l'autre. Et le texte que j'ai choisi parle lui aussi d'amour, l'amour de Dieu. Et le texte que j'ai se trouve dans Éphésiens 3, les versets 14 à 21, où dans ma Bible le titre est « Connaître l'amour de Dieu ». Mais en réalité c'est une prière. Voilà ce que Paul dit. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Alors je vais déjà vous replacer le contexte de cette lettre aux Éphésiens. Paul connaît donc la ville d'Éphèse, il y a passé 3 années à enseigner. C'est une ville qui est située aussi dans un carrefour économique important. Elle rivalise d'ailleurs en importance avec Rome, Antioche, Alexandrie et Corinthe. De fait, il n'y transite pas uniquement des marchandises, mais aussi des courants philosophiques, et le culte des idoles doit y être aussi important. On trouve dans Actes 19, dans les versets 23 à 24, l'histoire qu'il y a eu avec les marchands d'idoles, en particulier l'idole d'Artémis, puisqu'elle-même y possède un temple. Paul a écrit cette lettre pendant un temps de captivité, aux environs des années 60 et 62. Et cette lettre n'est pas adressée aux Éphésiens suite à des problèmes rencontrés dont Paul aurait entendu parler, comme on a d'autres lettres où il parle de soucis de certaines églises. Mais c'est plutôt une lettre qui donne un enseignement qui est fondé sur la foi et la vie chrétienne. Ce qui est très important car l'Église grandit, de nouveaux chrétiens arrivent dans l'Église et ce sont donc des jeunes dans la foi. Et les faux docteurs sont aussi ici. Et ils sont là pour instiller le doute chez ces jeunes chrétiens. Il y a donc là une nécessité d'écrire cette lettre pour bien poser le fondement de la foi en Christ en exposant le plan de Dieu et du salut qui en découle. Or, ce n'est pas uniquement les églises du temps de Paul qui sont concernées, nous le sommes tous, toutes les églises le sont, puisque nous sommes aussi au milieu de marchands de rêves. Alors maintenant, j'arrive au passage que j'ai à cœur à porter ce matin. Et ce passage, donc, comme je vous le disais, est une prière. Et Paul la commence comme ça, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. » Et cette prière nous fait effectivement découvrir l'amour que Dieu a pour tous les hommes. C'est aussi la deuxième prière qui se trouve dans la lettre aux Éphésiens, la première se situant au chapitre 1 des versets 15 à 23. Paul se met à genoux devant le Père, reconnaissant ainsi la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu, l'Éternel qui nous a créés. Nous ne sommes pas le résultat d'une certaine évolution, mais nous sommes créés par Dieu, à l'image de Dieu, et Dieu a voulu que nous existions jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, bien au contraire. Se mettre à genoux, c'est se soumettre à une autorité. L'homme est toujours à la recherche de quelque chose, et en particulier de ce qui pourrait combler un vide dans sa vie. L'Ecclésiaste dit d'ailleurs que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et pourtant, cette pensée de l'éternité ne l'amène pas forcément vers Dieu, mais à se tourner vers d'autres croyances devant lesquelles il se met à genoux, se mettant ainsi sous le joug des idoles. Il est donc important pour Paul d'exprimer qu'il se met à genoux devant le Père, qui est notre Créateur. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est qu'il continue en disant que les familles disent « dépendent d'un modèle ». Dans ma Bible, l'explication qui est donnée au terme « famille » est la suivante. En grec, il y a comme un jeu de mots sur ce terme. « Patria » pour la famille, « pater » pour le Père. La source de tout être vivant est en Dieu le Père. Et en nous tournant vers Jésus, en l'acceptant comme notre Sauveur, nous entrons dans la famille de Dieu le Père. C'est peut-être pour cela que Paul précise qu'il le fait devant le Père, de qui dépendent toutes les familles des cieux et de la terre, car c'est lui qui nous a créés. Paul continue sa prière en lui demandant de leur accorder différentes choses. Et tout cela à la mesure de ses glorieuses richesses. Il lui demande qu'il soit fortifié avec puissance par son esprit dans leur être intérieur, que le Christ puisse habiter dans leur cœur par la foi, qu'il soit enraciné solidement dans son amour, on l'a chanté, mon ancre et ma voile, qu'il puisse comprendre la qualité de son amour pour eux, qu'à cause de cet amour, il puisse être rempli de toute la plénitude de Dieu. Alors je vais essayer maintenant de développer ma compréhension de ces demandes. Être fortifié avec puissance par son esprit, et je le mets maintenant pour nous, dans notre être intérieur. Au verset 8 du même chapitre, Paul dit qu'il est le plus petit de tous ceux qui appartiennent à Dieu, et pourtant Dieu lui a confié la tâche d'apporter la bonne nouvelle aux non-juifs. Tout le monde sait combien Paul mettait tout son cœur, à persécuter les chrétiens, combien ces derniers redoutaient de se trouver sur son chemin. Il était tellement sûr que les chrétiens formaient une secte, tellement sûr qu'ils étaient dans l'erreur, jusqu'à ce qu'il soit arrêté lui-même par Jésus sur le chemin de Damas. Et pourtant, Dieu va l'utiliser. Il l'utilise pour annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu, et encore moins l'amour de Dieu. Dieu ne l'a pas écarté, il ne l'a pas rejeté, mais il l'a stoppé net sur ce chemin de Damas. Il a envoyé vers lui un chrétien du nom d'Ananias qui doit le prendre en charge. Le Seigneur a dû encourager Ananias à cause de la terrible réputation de Paul, Saul, à ce moment-là, en lui disant qu'il avait été choisi par lui-même pour qu'il le fasse connaître, lui, aux autres nations, aux non-juifs. Donc Dieu n'utilise pas uniquement les personnes connues pour être très religieuses pour annoncer sa parole, mais il peut aller jusqu'à utiliser un homme comme Paul qui pourchassait les chrétiens en pensant bien faire. Sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a entièrement changé sa vie. Dieu savait ce qu'il faisait en le choisissant et il l'a formé à ce ministère. Paul, en entendant ce que Jésus lui dit à Damas, s'est laissé toucher par la grâce de Dieu et il a été fortifié dans son être intérieur par le Saint-Esprit. Lorsque je dis que Dieu ne recherche pas des personnes religieuses pour annoncer la bonne nouvelle, vous comprenez bien que je pense, à ce moment-là, du temps de Paul, aux rabbins, aux pharisiens, qui, eux, n'auraient pas pu apporter ce message autour d'eux. Ils se sont battus contre Christ aussi pour le faire taire. Ils ont été tellement préoccupés par l'observance de leur propre message, leurs propres lois et les institutions, qu'ils n'ont pas voulu entendre ce que Jésus disait. Ils ne se sont pas laissés toucher par le message que Jésus apportait et certains privilèges risquant de disparaître pour eux. On risquait quand même d'en perdre pas mal. Ce sont des personnes comme Pierre, Jacques, Jean, les autres disciples qui ont répondu à l'appel de Jésus. Ce sont aussi des femmes qui ont répondu à l'appel de Jésus et tous l'ont suivi. C'était des personnes sans grandes instructions. Mais chacun a compris que Jésus avait quelque chose de très important à annoncer et ils ont compris l'importance de ce message. À l'heure d'aujourd'hui, Chaque personne qui entend le message de la bonne nouvelle est aussi capable de la comprendre. Quel que soit son niveau de compréhension, mais il en est de même que du temps des apôtres et de l'Église primitive, nous avons un choix à faire. Et j'ai trouvé qu'effectivement, ce que les enfants ont fait ce matin, ce qu'ils ont montré par la parabole du bon samaritain, pourrait même pratiquement correspondre à cela. Nous sommes donc tous invités à être touchés, à nous laisser toucher par la grâce de Dieu, car il nous connaît. Il n'attend pas que nous ayons changé de point de vue, c'est lui qui va faire ce changement au travers de sa grâce, de son amour pour nous, et d'entrer dans cette grande famille dont Dieu est le Père. Ensuite, bien que le Christ puisse habiter dans notre cœur par la foi. Christ est donc entré dans la vie de Paul, et Paul s'est laissé transformer par le Saint-Esprit. Paul prie pour que cela arrive aux Éphésiens, mais pour que cela nous arrive aussi, pour que Christ puisse devenir le centre de notre vie, en habitant notre cœur. Car c'est bien du cœur dont il est question et non pas du cerveau. Intellectuellement, il n'est pas réellement possible de comprendre ce phénomène qu'est l'amour de Dieu pour les hommes, car il faut le comprendre avec le cœur, mais non pas avec le cerveau. Jésus dit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Alors comment réagit-on avec quelqu'un que l'on aime ? Est-ce que l'on aime cette personne pour qui elle est ou parce qu'elle représente un intérêt pour nous ? Si c'est par intérêt, on risque fort de la perdre de vue très rapidement parce que la tâche n'est pas la bonne. Ou alors, peut-être parce qu'elle n'a plus rien à nous apporter. Mais si l'on aime cette personne pour qui elle est, cela change la donne. Ce ne sont plus les intérêts qui prennent le dessus, mais on a envie de la fréquenter. On a envie de partager nos pensées avec les siennes. Et si elle rencontre un problème, on a envie de l'aider. C'est une personne qui a de la valeur à nos yeux, une personne que l'on porte dans son cœur. Aux yeux de Dieu, nous avons une valeur inestimable. Et pourtant, il va nous laisser le choix de vivre en sa présence, de le laisser entrer dans notre cœur, ou alors celui de marcher sur le chemin qui nous convient le mieux, d'après nous, à notre idée, mais qui ne sera pas forcément le meilleur pour chacun de nous. Paul dit dans la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Sa vie a changé lorsqu'il a appris à faire confiance en Dieu, pas seulement dans sa tête, mais dans son cœur. En laissant le Saint-Esprit transformer sa vie, c'est son cœur qui a été touché parce que Dieu lui a fait comprendre combien il l'aimait et tout ce qu'il pourrait apporter aux autres en se laissant guider par lui. Au verset 17, dans Éphésiens 3, Paul dit « Christ habite dans vos cœurs par la foi ». Paul a placé sa confiance en Christ quand il a compris combien il est aimé du Père. Sa route était tracée par le Saint-Esprit et il n'a jamais essayé de changer sa destination pour apporter la bonne nouvelle. On le sait, puisque plusieurs fois il disait qu'il voulait se diriger vers tel endroit et pourtant les portes se fermaient à chaque fois, jusqu'à ce qu'il ait eu la vision du Macédonien. Notre amour, pour que nous soyons enracinés solidement dans son amour, dans l'amour de Dieu. Paul prie aussi que nous soyons enracinés dans son amour, mais solidement, pas juste de manière superficielle. Alors je vais utiliser une image pour cela. Nous avons vécu dernièrement des belles tempêtes. Et donc, il y a certains arbres qui résistent moins bien aux tempêtes que d'autres. Les sapins, par exemple, ou les pins. Ils ont des belles racines, des grosses racines. Elles peuvent être très fortes, puisqu'elles arrivent à soulever le bitume des trottoirs, des routes. Elles font vraiment des vagues. Mais lorsqu'il y a beaucoup de vent, ces racines n'étant que sous la surface de la terre, mais vraiment au ras du sol, le vent arrive à déraciner ces arbres. Ils tombent. Et vous avez certainement constaté en forêt que les racines se trouvent à l'extérieur du sol et donc elles ne peuvent plus nourrir l'arbre. Et l'arbre meurt. Par contre, d'autres arbres ont un système racinaire qui aime bien aller en profondeur. et cela se trouve beaucoup plus solidement enraciné, ancré dans le sol. Alors pendant les tempêtes, et ça je l'ai vu en venant jusqu'à Münster, j'ai été quand même étonnée de voir combien d'arbres ont souffert de ces tempêtes, des branches cassées, des troncs, des cimes qui sont tombées. Ce sera ça qui va partir, pour nous aussi dans nos tempêtes, mais ce ne sera certainement pas l'essentiel. Paul prie pour que notre foi soit solidement attachée, enracinée dans l'amour de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que nos tempêtes dans nos vies ne pourront pas causer de dégâts, c'est ce que je disais, mais en étant solidement et profondément enracinés dans l'amour de Dieu, nous trouverons toujours la nourriture dont nous avons besoin, même si certaines choses disparaissent pendant les temps difficiles. Et nous devons être sûrs de l'amour que Dieu a pour nous, car il est notre Créateur. J'utilise une deuxième image. J'aime beaucoup regarder les oiseaux qui viennent sur notre terrasse. Il y a des rouges-gorges, il y a des mésanges charbonnières, des mésanges bleus en particulier. Un petit peu plus loin, on a un arbuste qui est, mais alors, truffé de moineaux. Ce sont surtout les rouges-gorges et les mésanges qui viennent sur notre terrasse. Jour après jour, elles viennent chercher à manger chez nous, comme elles vont chercher à manger chez les voisins. Elles font parfois le tri. Chez l'un, elles cherchent les noix, chez l'autre, elles cherchent les autres graines. Mais elles ne font pas l'inverse, ça c'est drôle. Ils savent malgré tout qu'il y a toujours quelque chose de bon pour eux. C'est comme s'ils n'avaient absolument aucun doute, nous concernant nous. Elles nous font pleinement confiance par rapport à leur nourriture. Et moi, je trouve ça magnifique. Parce que de temps en temps, elles viennent le matin, si elles voient qu'il n'y a rien, elles repartent. Et elles reviennent un petit peu plus tard pour voir s'il y a quelque chose, et là, après, elles viennent se servir. Dans son amour pour nous, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. Pas uniquement la nourriture terrestre, même si cela en fait partie, mais surtout au niveau de notre foi. Sa parole est vraiment la nourriture dont nous avons besoin, et il faut la lire aussi régulièrement que nous prenons nos repas quotidiens. En lisant la parole de Dieu quotidiennement, nous trouvons tout ce dont nous avons aussi besoin pour ne pas tomber sous les coups de l'ennemi. Et c'est ainsi que nous découvrons que nous pouvons bénéficier d'une armure pour combattre cet ennemi, l'armure que Paul décrit très bien dans le chapitre 6 de cette lettre. Il y a la vérité pour ceinture, la droiture en guise de cuirasse, les chaussures pour apporter la bonne nouvelle de la paix, la foi comme un bouclier pour éteindre les flèches enflammées du diable, le salut pour casque et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. En étant enracinés dans la parole de Dieu, nous saurons vraiment comment réagir lorsque nous nous sentons assaillis par l'ennemi, qui lui aussi veut prendre sa place dans nos vies, mais aussi plus précisément dans nos cœurs. Que l'on puisse aussi comprendre la qualité et la dimension de son amour pour nous. Vous avez des enfants, vous avez été enfant, vous avez des petits-enfants. Et je pense qu'on vous a déjà demandé la question suivante, posé la question suivante. Est-ce que tu nous aimes? Comment tu nous aimes? Alors j'ai oublié, à la maison, j'ai un petit cœur avec des bras, je voulais vous le montrer. Il est à la maison, mais je pense que vous voyez ce que c'est. Mes petits-enfants, ici en Alsace, m'ont posé la question suivante. Est-ce que tu nous aimes? Elles étaient trois filles à ce moment-là. Il y avait le quatrième qui était en cours de route. Alors j'ai dit oui, mais bien sûr que je vous aime. Toutes les trois autant que vous êtes. Vous avez vraiment toutes les trois de la valeur à mes yeux. La question suivante, oui, mais il y a le bébé qui va venir. Comment tu vas nous aimer après? Est-ce que tu nous aimeras moins? J'aurais dit, ben non, on ne peut pas aimer moins, ce n'est pas possible. Mais il y aura de la place pour lui. Et c'était drôle parce qu'après leurs cousins sont arrivés, pour les deux prochains, la question a à nouveau été posée. Pour le dernier, il n'y a plus eu de problème. Mais est-ce que tu as toujours assez de place pour nous? Et c'est quelque chose d'important à leurs yeux que de savoir qu'ils sont aimés, ces enfants. Et comment leur dire combien on les aime, comment on les aime, grand comme on les aime? J'aurais dit, mais on ne peut pas faire autrement que de continuer à vous aimer. Mais est-ce que notre cœur est extensible pour aimer? Est-ce que ton cœur est extensible pour nous aimer tous? Et en plus, tu aimes papa, tu aimes maman, tu aimes papa, tu aimes... Ben oui, on aime beaucoup de personnes. Et ça, c'était vraiment une grosse question pour elle. Est-ce que Dieu peut nous aimer de cette même manière? Est-ce qu'il a de la place pour chacun de nous? L'amour de Dieu envers les hommes est encore plus grand. Il nous a créés. Il a trouvé lors de la création que tout ce qu'il avait fait était bon. Même après la chute, il n'a pas pu se résigner à détester l'homme et à l'anéantir entièrement. Il est important pour nous de nous le rappeler. Et Dieu a fait aussi en sorte à ce que nous ne puissions pas l'oublier. Il l'a fait au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est venu sur terre. Il a vécu notre condition humaine. Il a rencontré tout ce que nous vivons dans nos vies, nos joies, nos peines, nos déceptions, la tentation du diable sans y céder, les sarcasmes venant des hommes de loi. Quand je dis les tentations sans y céder, c'est Jésus. Il y a encore tant d'autres choses. Mais Dieu le Père est encore allé plus loin que cela. Il a envoyé Jésus, son Fils, mourir à la croix pour porter tous nos péchés, tous nos manquements. Jésus n'a pas fauté, n'a pas péché comme nous le faisons, mais il est mort pour que nous puissions être pardonnés de tout ce que nous faisons de mal dans notre vie. Mais nous ne sommes pardonnés qu'à condition d'accepter ce sacrifice. Dieu fait preuve d'un amour immense envers les hommes, mais comment pourrions-nous décrire la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de son amour pour nous? Le psaume 103 au verset 11 dit la chose suivante: « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. » Mais où s'arrête le ciel? Si notre foi est enracinée en Christ et solidement fondée dans l'amour de Dieu, nous pouvons alors comprendre un peu mieux la qualité et la quantité de l'amour qu'il a pour nous. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous pour nous permettre de comprendre la dimension de son amour pour nous. Et pourtant, nous n'arrivons pas à imaginer combien il nous aime. Nous sommes tout de même trop limités dans notre compréhension. Tout comme les enfants se posent la question de comment notre amour pour eux est grand. Ils n'arrivent pas à le mesurer. Ils y arriveront un jour, quand ils seront à l'âge adulte. Mais nous, nous comprendrons aussi beaucoup mieux lorsque nous serons près de lui. Mais laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, dans notre cœur, et nous serons heureux de découvrir ce que nous avons du mal à imaginer. La dernière chose, c'est qu'à cause de cet amour, nous puissions être remplis de toute la plénitude de Dieu. Paul dit que parce que Dieu nous aime, il nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre notre foi en lui. Nous n'avons pas besoin d'aller voir ailleurs pour faire un complément sous peine de retomber sur le mauvais chemin, celui de l'idolâtrie, puisque nous mettons autre chose en avant que Dieu. La parole de Dieu nous montre que nos actions, si elles ne sont pas soumises à Dieu, n'auront pas l'impact souhaité. En Proverbe 3, le verset 5 à 6, il est écrit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Lui seul peut nous montrer le chemin à prendre et cela nous oblige à avoir une relation très forte, encore et toujours, avec notre Père Céleste qui sait toutes choses avant même qu'elles n'arrivent. Mais être rempli de la plénitude de Dieu, qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Nous ne pouvons pas contenir en nous-mêmes tout ce que Dieu est, car il est bien plus grand que nous. Et il a tellement de capacités en plus que nous, comme par exemple l'omniscience, nous ne savons pas tout. L'ubiquité, on ne peut pas être partout à la fois. Nous n'avons pas la même sagesse que Dieu, nous ne sommes pas saints comme Dieu l'est. Notre amour n'est pas le même que celui de Dieu. Nous sommes malgré tout bien loin d'être comme Dieu, mais par contre nous sommes appelés à l'imiter du mieux possible. Et pour ce faire, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, et si nous avons l'impression de manquer de quelque chose, il suffit tout simplement de le demander. Et c'est ce que Jacques dit dans son chapitre 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. » Voilà ce qu'est la plénitude de Dieu. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin et pour que nous soyons remplis de ses bienfaits et pour que nous puissions alors aussi les partager autour de nous. Il ne demande pas ce qu'on le garde pour nous, mais à partager autour de nous. Dans cette prière, nous voyons que la Trinité est en action. Le Saint-Esprit agit pour l'unité dans l'Église. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre l'amour infini de Jésus pour nous. Et la connaissance de cet amour pour nous mène vers le Père, qui veut nous combler de ses bienfaits, parce que nous sommes ses créatures. Amen.